la chute et la restauration. Je vous propose simplement de voir la partie chute, qui va correspondre à Genèse ou à Adam, et la partie restauration, qui va être plus sur Romain et Jésus-Christ. Je prends la définition du catéchisme de Heidelberg, 1563, ça fait quand même un certain nombre d'années. D'où vient la corruption naturelle de l'homme? Parce que ça, c'est une question que souvent on se pose. Elle vient de la chute, de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, arrivés dans le paradis terrestre, ou Éden, ou jardin, par où notre nature a été tellement infectée que nous sommes tous conçus et naissons tous dans le péché. Qu'est-ce qui fait choc dans cette définition par rapport à la pensée du monde et par rapport à l'être humain?
On est péché.
On paye les pots cassés, quoi.
Qu'est-ce que ça suscite en vous de...
L'injustice. Mais on se dit c'est à cause d'eux. D'un autre côté, on est conscient qu'on n'aurait pas fait mieux, mais... On
ne
sait jamais.
Ok, alors ça, on va le voir juste après.
C'est de toute façon pas juste de ne pas nous avoir donné la chance d'essayer.
Ok.
Enfin, que les gens soient condamnés avant même de naître.
Oui. Mm-hmm. Hein? Ok. En tout cas,
Adam et Ève n'existent pas. On n'a pas les parents d'Adam et Ève.
Ok, donc effectivement, si on remet en question l'existence d'Adam et Ève, ça pourrait poser un problème. Effectivement, ça existe. Hein. Il y a des courants qui pensent que Adam et Ève représentent l'humanité simplement en termes de vie. On peut quand même arriver aux mêmes conclusions parfois. Il y a aussi. Mais c'est choquant parce que qu'est-ce que ça veut dire sur en un mot, qu'est-ce que ça veut dire sur l'être humain?
Il est mauvais
de
nature.
Il est infaillible. Il est conditionné.
Ouais. Ouais,
il est surtout con.
On est mal parti, quoi. Mais est-ce que c'est choquant pour le monde, cette idée?
Ben non.
Oui, je pense que les hommes croient qu'ils sont bons. Je crois que les hommes pensent qu'ils sont bons de nature.
On pense tous qu'il y a un bon fond, en fait.
Oui. Et que quand ils sont bébés, ils sont,
d'accord.
Sont bons, mais...
Il y a deux écoles, quand même. Il y a deux écoles, mais si tu regardes les films...
Il y a deux écoles, quand même.
Oui, ils sont...
Et si tu regardes les films, il y a toujours soit un qui a un bon fond derrière, ou soit... tu vois qu'en fait, l'être humain ne peut pas changer. Mais il y a deux pensées dans...
Spiro, est-ce que tu comprends la question? Est-ce que tu penses que les êtres humains sont bons ou mauvais, quand même?
Ils sont bons aussi, ils sont mauvais.
Les deux, ok.
Ah, sinon, il y a la troisième pensée, c'est au milieu et tu choisis.
T'es neutre. Ah, c'est quand même intéressant. Bon.
Est-ce qu'on serait les seules créatures avec le serpent à être mauvaises? C'est ça un peu aussi.
C'est ça que tu veux dire.
Toutes les autres créatures de la création sont.
C'est ça. Tu veux dire les autres.
Sont en phase avec ce pourquoi elles ont été conçues. Est-ce que nous, on serait les seuls à avoir dévié?
Oui.
Alors quoique après, dans la malédiction, Dieu
ouais,
dit que la terre va devenir aride.
Voilà, donc Romains 8, si vous prenez Romains 8, il est écrit vers, quelque part vers le verset 30, ouais, je suis pas certain. Il est écrit que le cosmos, c'est-à-dire l'ensemble de la création de Dieu, quand on parle du cosmos dans la Bible, c'est l'ensemble de la création, attend la délivrance, quelque part. Et on voit qu'il y a un lien avec la Genèse, c'est qu'à l'origine, il y avait quelque chose qui était prévu et que la faute du péché a entraîné la déstabilisation du cosmos. Si bien que tremblements de terre, ce genre de choses qui sont intervenues, le cosmos s'est déstabilisé. Et ce qu'on voit en Genèse 12, c'est que ce que Dieu fait, il dit, quelque part, je vais stabiliser le cosmos, le maintenir dans un état... Et c'est moi qui fais ça, donc je le maintiens. Donc il y a Dieu a la responsabilité de maintenir le cosmos malgré, on va dire, la faute de l'homme. Mais ça veut dire que certains comportements des animaux et tout ça sont, entre guillemets, pas d'origine, quoi. Il y a eu un bug, quoi, qui s'est passé dans l'histoire. Donc ça, c'est un aspect. Mais par rapport à nous, on va voir après, parce qu'il y a donc des questions qui demeurent par rapport à la faute à qui c'est qui doit payer, hein. Je veux dire, il y a notre sentiment en fait, de justice qui apparaît là, hein, je veux dire, si à un moment donné il y a quelqu'un qui a commis une faute et que c'est pas nous, ben, je sais pas, mais à un moment donné, on se dit, mais attends, pourquoi je devrais payer pour la faute de l'autre, hein, avant de essayer de répondre à cette question, pour essayer de voir le problème que Jésus-Christ va régler, parce que si on comprend pas finalement le problème, on voit pas pourquoi il faudrait qu'il y ait une solution. Hein. C'est pour ça que je trouve que les approches d'évangélisation dans la rue, où vous allez voir quelqu'un et vous lui dites « Jésus est ton ami », c'est intéressant, mais je veux dire, vous avez oublié une partie du message qui consiste « Ah oui, mais ça sert à quoi Jésus-Christ ? Ah ok, il y a peut-être un problème de fond de l'être humain qui doit être corrigé, il y a quelque chose, il y a un problème. » Jésus-Christ, c'est une solution aussi, un problème, c'est pas juste un ami, c'est aussi un ami, mais vous voyez le problème. Quoi, hein. Il y a un début, quoi. Donc il y a un problème avant qu'il y ait une solution. Donc on va voir, parce que le problème, c'est que quand vous arrivez et vous dites à quelqu'un, tu sais, tu es pécheur. C'est bien, mais ça veut dire quoi ? C'est bien, mais on n'est plus à l'époque médiévale, là. C'est quoi le péché, finalement ? Donc c'est la question que j'aimerais vous poser maintenant.
Rater le but.
Rater le but, ok, ça c'est l'étymologie du mot. Okay, manquer le temps, c'est intéressant parce que.
C'est le verbe, ou pas, je ne sais pas quel temps du verbe péché. Le poisson.
Ok, non, ce n'est pas ça. Donnez-moi comme ça votre définition personnelle, comme si quelqu'un vous demandait comme ça.
Défaillance.
Désobéissance. À la loi de Dieu.
Autre pensée que de penser à Dieu.
Dégénérescence.
Moi, je vais mettre orgueil, vraiment.
Orgueil.
Oui, vraiment englober tout.
Ok. Valérie,
ça a été dit.
Ok. Alex, tu...
Quelque chose, ça ne couche pas tout de suite.
Non, c'est... Mais c'est pas si simple, en fait. Hein,
ça, c'est que... les douleurs d'enfants.
Ça, c'est une tendance de notre cerveau de vouloir la définition de quelque chose, alors que les Écritures, parfois, donnent plusieurs axes hein, de ça. Mais j'aimerais proposer un de ce qu'on voit donc, ici.
M'interroger, en fait, savoir si c'était quelque chose de conscient ou d'inconscient, toujours.
Oui.
C'est juste ça. Est-ce que le péché est quelque chose de conscient ?
Tu veux dire dans le sens de responsabilité ou...
C'est-à-dire
que tu le fais volontairement, tu veux dire.
Oui.
Ça peut être les deux, effectivement.
J'ai lu que même un péché peut être involontaire, mais que Dieu intervient.
Oui.
Avec Abraham qui donne sa sœur, entre guillemets, à une personne, Dieu arrête et dit, par un songe, il lui dit,
c'est
je t'arrête maintenant parce que tu vas pécher.
Oui, c'est ça.
Alors que lui n'était pas du tout conscient
tout à fait.
Que
tout
c'était la exact. Femme de quelqu'un d'autre.
Tout à fait. Et je vais même dire une chose, bon, on voit ça dans les psaumes, je ne me rappelle plus exactement lequel, mais David va prier Dieu de lui pardonner ses péchés conscients et inconscients.
Ouais.
C'est-à-dire ce qui... Probablement, en fait, quelque part, David va confesser plus sa nature que ses actes. C'est-à-dire le problème vient de ma nature, pas uniquement de mes actes. Les deux sont liés, quelque part. Mais je vous propose juste ça, ce qu'on a lu, en fait, dans Genèse 3. De façon simple, j'aime souvent définir le péché comme ça. Le diable vient et dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Et ensuite, il leur dit, mais vous, si vous prenez de cet arbre, en fait, vous serez comme Dieu. Donc, c'est ouais.
C'est mettre Dieu en doute.
C'est mettre Dieu en doute et croire le diable. Alors quelque part.
Avant même qu'ils mangent, oui, ils étaient déjà pécheurs.
Ouais, donc il y avait un désir, il y a quelque chose qui est là de dire. Est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que j'obéis pas à Dieu ? Est-ce que je crois ce que Dieu a dit ou est-ce que je crois pas à ce que Dieu a dit ? Et ça, c'est assez intéressant parce que, plutôt que de se compliquer la vie souvent en tant que chrétien, est-ce que ça, souvent on est là, on lit la parole, mais analysons simplement notre résistance quand on lit un texte, quand on comprend le texte, parce que des fois on comprend pas, on fait n'importe quoi, mais je veux dire, quand on comprend le texte, on voit, c'est clair. Comment on réagit ? Ben, en nous, il y a ça, en fait. Il y a un truc qui est là. Est-ce que vraiment Dieu, il a voulu dire ça ? On prend 25 000 autres versets pour essayer de comprendre. Non, on fait comme ça. C'est comme ça qu'on fait.
Ou alors on voit qu'on a tort, mais alors on fait comme celui qui se regarde dans le miroir et qui oublie.
C'est rien, ok.
On parle la Bible et...
Ouais. Mais, je veux dire, c'est une attitude qu'on reconnaît en nous, quelque part. Et ça, c'est une attitude, c'est un désir, finalement, d'indépendance par rapport à Dieu. C'est-à-dire que, quand on est d'accord avec Dieu, ben, on veut bien que Dieu soit Dieu, pour nous, mais quand il n'est plus, plus d'accord avec nous, on n'est plus d'accord avec lui, ben, ça commence à poser problème. Et c'est là, en fait, que c'est un test de foi. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit dans les Écritures la racine de tous les problèmes, des péchés, c'est l'incrédulité. C'est je ne crois pas que vraiment Dieu veut mon bien. Je ne suis pas certain, en fait. Je pense que souvent, on se donne une image de lui comme autoritaire ou quelqu'un qui veut imposer sa volonté parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Alors que si on se raccrochait à cette idée qu'il veut mon bien, il veut mon bien, il veut mon bien, il m'a suffisamment montré, il m'a donné tout le jardin, il m'a tout donné, il peut tout faire. Donc c'est une question de foi, en fait. Le péché, c'est ne pas croire, en fait. Une simple définition, c'est placer sa confiance en soi-même. Bon, la racine du mot foi, c'est confiance. Hein. C'est placer sa confiance en soi-même plutôt que la placer en Dieu. C'est ça le péché, en fait, finalement. Maintenant, il y a un problème. Parce que on pourrait dire, ah oui, mais si on pense comme ça, si on résiste, est-ce que c'est un problème génétique? Que Adam, il a fait une première bêtise de déclaration d'indépendance comme ça, et que voilà, on a vu, Adam a péché, le péché est entré dans le monde, on a lu, hein, dans Romains. Ah mince, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on est puni pour notre propre péché, c'est-à-dire pour notre propre désobéissance? Ou est-ce qu'on est puni pour le péché d'Adam? C'est important. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avis?
Si on était puni pour le péché d'Adam, en tout cas, il faut reconnaître qu'on n'a pas péché que lui. Enfin, on agit comme lui. Donc finalement, on est puni pour nos
bon, péchés. Prenons peut-être le premier. Si on est puni pour notre propre péché, à quoi ça sert que Paul fasse le lien entre Adam et Jésus-Christ? Ici, dans Romains. Pourquoi est-ce qu'il développe toute une théorie?
Eh ben, parce que comme ça, on peut savoir d'où vient notre péché, en fait.
Ah, donc toi, tu penses que le péché vient d'Adam?
J'ai rien dit.
Non, je parlais. Ok. Mais peut-être parce que Adam, c'est la figure de proue d'une chose, et Jésus-Christ, c'est la figure de proue d'une autre chose. Mm-hmm. Jusqu'à présent, vous êtes comme Adam, et puis après, vous serez comme Jésus-Christ. Mm-hmm. Donc, c'est deux modèles, en fait.
Mm-hmm. Moi, je pense que le péché d'Adam, c'est le résumé de tous les péchés.
Ok.
Et Jésus-Christ, c'est le résumé de la nouvelle espèce.
C'est l'envie d'être comme Dieu. C'est, enfin, pour moi, ça se résume à envie et orgueil, quoi. Mm-hmm.
Quand vous lisez Romains 5, donc qu'on vient de lire ici, qu'est-ce que vous avez comme sensation que Paul veut nous faire comprendre?
Et que c'est à cause d'Adam que j'ai vu proximer les responsables.
Et vous ressentez ça en disant ou peut-être, oui.
Adam comme origine et Jésus comme but, comme ce vers quoi il faut tendre, il y a eu l'occasion de se perdre, et il y a l'occasion d'aller vers la lumière. Uh-huh.
Ça, c'est la fin du message, bien. Okay. c'est conclusion. Ouais. On va aller vers ça. Il y a deux lieux, en fait, ici, effectivement.
Mais ici,
mais,
moi, je pense qu'on paye pour notre péché.
Ouais. Enfin,
tous pécheurs minimum une fois, je veux dire.
Mais la question que je te poserai donc, pourquoi est-ce que Paul ferait donc le lien avec cet Adam? C'est-à-dire que est-ce que c'est, entre guillemets, parce que Adam a fait rentrer le péché dans le monde? Que finalement génétiquement on est enclin à pécher, tu vois, tu vois le bug en fait, hein. c'est ça qui est pas évident, et que certains disaient mais attends, hein, si je peux, ouais, j'y peux rien, si Adam, tu vois, est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre Romains 5?
On aurait peut-être tous fait comme ça.
Voilà. Donc ici il y a un débat, et ce que je veux dire, on va pas le résoudre ici, parce que en fait, hein,
on est péché parce qu'on appartient à la bande des pécheurs.
Oui.
Et puis on pêche quand même.
Voilà, voilà. Et ça, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. En fait, il faut rester dans ce que nous dit l'Écriture. Et si on regarde l'ensemble des théologiens, donc depuis Origène jusqu'à Henri
Qu'est-ce
Gaucher.
Qu'est-ce qu'il a dit finalement, on est pécheur parce
que tu appartiens à la bande des pécheurs.
La bande des pécheurs, ouais. Ah oui.
Et donc,
la bande d'Adam.
Certains théologiens disaient, ben non, en fait, c'est pas possible, ça serait injuste que ça soit à cause de Adam, et du coup, en fait, ils ont dit non, chacun doit avoir son libre arbitre, sa responsabilité pour faire ci. Donc, ils se sont disputés. Le problème, c'est que chacun, ceux qui allaient un peu trop vers le libre arbitre, ils étaient rattrapés par ça. Mais non, mais s'il y a trop de libre arbitre, comment vous êtes sauvés par les grâces? Et ainsi de suite. Donc, ils étaient un peu toujours en discussion. C'était pas facile. Mais ce qu'on voit, c'est que, quelque part, c'est toujours ces deux questions qui reviennent. Mais on pourrait proposer la troisième hypothèse, qui est celle-ci. C'est à cause du péché d'Adam que nous sommes tous punis pour les nôtres. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Il faut un certain temps. Je vous l'accorde.
Non, officialise.
Je vous accorde, c'est évident. Il faut du temps. C'est à cause du péché d'Adam que nous sommes punis pour les nôtres.
Oui, parce que c'est à cause d'Adam que... C'est à cause d'Adam que le péché est venu, mais nous, on est responsables de notre péché aussi.
C'est pas vraiment ce que ça dit.
Non, c'est là que je demande, non. Je pense que...
Relisez Romains 5, verset 18, maintenant,
on
avec cette optique.
On est pécheurs, et Adam, c'est le premier.
Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes.
Alors... Qu'est-ce qui est venu suite à la désobéissance d'Adam?
La condamnation.
Oui, qui s'est étendue à tous les hommes. Ouais. Est-ce que c'est le péché d'Adam qui s'est étendu à tous les hommes?
Non, c'est la condamnation.
Oui. Ok, donc c'est la condamnation qui... Parce que Adam, voilà, il y a eu une condamnation qui a eu dans le monde lorsqu'il y a la désobéissance.
Mais la désobéissance, il y a pas d'Adam.
Et pourquoi? Enfin, ça c'est...
Ah oui, par un seul
pourquoi
péché.
Adam?
Tu veux dire?
Et pourquoi pas elle?
Ah oui, alors non, ça c'est simple. Oui, non, ça c'est simple.
Non, c'est pas ça.
Non, non, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis.
C'est que la première, là.
Alors, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, alors, non, mais tu as raison de poser la question parce que ben c'est bien, parce que je n'allais pas aller dans ce terrain-là, j'allais le laisser pour plus tard, mais en fait, ici, si on voit, donc Paul. N'est pas celui qui veut uniquement voir la faute de Adam, ok? Mais en fait, on va essayer de comprendre pourquoi. Si tu prends, par exemple, 1 Timothée 2, Paul, il va dire, c'est pas Adam qui a été tenté, c'est Ève qui a été tentée, qui a pris le fruit. Donc, t'es là, tu fais quoi? C'est la faute à qui, alors?
Bon. Hein?
Et ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, pourquoi Adam? C'est que... Ce qu'on regarde en fait dans ce qu'on appelle les alliances, Adam était la personne que Dieu a choisie dans le jardin pour établir l'alliance d'Éden, la première alliance. Okay? Et si on regarde bien dans le texte qu'on a lu, vous voyez ce que c'est un chiasme en littérature. Bon, je vais l'exposer ici. Okay. Dieu il dit à Adam. Je vais expliquer. Dieu, dans la structure de la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il place Adam dans le jardin. Il dit à Adam, tu as accès à tout, mais pas à l'arbre qui est là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La femme est approchée par le diable. Elle prend l'arbre. Et voilà, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui... Et puis, Dieu voit... Il pose la question à qui, en premier? À Adam. Okay. Et Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, c'est pas moi, c'est ma femme. Bon, plutôt, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est plutôt... C'est blame shift. On reporte la faute sur l'autre. Quoi. Okay. Et là, vous voyez qu'on inverse. Donc, Dieu, il demande à Adam, il lui donne le commandement, c'est le diable qui tente, puis la femme qui transgresse, et Dieu, à nouveau, redemande des comptes... Adam, et Adam rembobine. Et non, en fait, c'est la femme, et la femme, ah non, c'est le diable. Et si vous regardez, après, ça revient encore dans l'autre sens. Et donc, condamnation pour le diable, condamnation pour la femme, condamnation pour l'homme. Il y a un ordre comme ça. Mais ultimement, en fait, le responsable de l'alliance, c'est Adam qui est là. Il y a trois conséquences qui sont liées au péché, et c'est pour ça que prendre la Bible dans son contexte, c'est important. Ne faites pas dire aux Écritures que l'homme doit dominer une femme. Ne faites jamais dire ça à un chrétien. Ça fait partie de la malédiction que Jésus-Christ a renversée. Ok, ça c'est pas le modèle biblique qu'un homme domine sa femme. C'est pas du tout ça qui est écrit. Quoi. Ok, c'est pas non plus le modèle biblique que l'homme sue et souffre et que la femme souffre dans l'accouchement. C'est pas le plan de Dieu à la base. Ça fait partie de la malédiction. Ok, donc il faut faire attention. Hein, ici. Il y en a qui aiment bien prendre le truc. Regardez, je dois dominer ma femme, c'est écrit. Non.
La femme doit avoir
du désir pour moi. Voilà, c'est bon, soit. Et je voulais juste dire ça. Donc, est-ce que ça répond plus ou moins à ta question par rapport à Adam?
Oui, okay.
Donc, ça ne retire pas la culpabilité de Ève, mais par contre, ce qui est très important, c'est que la responsabilité est demandée à Adam. Ça va développer toute une théologie en fait, de la famille et tout ça, mais ça, on verra ça plus tard. C'est que Adam était dans le jardin, et si on regarde, il était vraiment à côté d'Ève au moment en fait, où elle saisit le fruit. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a rien dit. Ça veut dire que, en fait, j'aimerais bien aussi prendre le fruit, mais je vais laisser faire l'erreur à quelqu'un d'autre. C'est un peu ça, quoi. Okay, ça nous rappelle certains comportements de couple, hein, parfois. Ok, vas-y, tu vas te planter. Je dis rien, tu vas te planter. Non, faites pas comme ça. Là, c'est des comportements manipulatifs. Hein. Enfin, c'était une parenthèse. Ok. Donc, quelque part, ce qu'on voit, c'est que l'attitude de Adam a déclenché finalement une condamnation. Et finalement, nous sommes condamnés au même titre qu'Adam parce que nous sommes en Adam, nous sommes humains, nous sommes du même ordre, nous commettons le même genre de choses, nous faisons la même chose. Alors, oui, on est responsable pour nos propres fautes, et comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, quelqu'un qui analyse un peu sa vie, ben, il y a au moins un péché qu'il peut au moins trouver, au moins un, j'imagine, hein, effectivement. Et ce serait un peu un péché d'orgueil de ne pas en trouver quelque part.
Du mensonge,
voilà. On tombe dans la matière. Donc, on est tous pécheurs. On fait tous des bêtises. Donc, on est tous buggés, quelque part. Okay. Donc, maintenant, je vais poser la question. Et selon vous, qu'est-ce que ça fait là, les versets 20 et 21, alors, dans Romains 5? Parce qu'il parle de la loi, du péché, de Jésus-Christ, d'Adam, de Jésus-Christ, d'Adam, de Jésus-Christ, d'Adam, de Jésus-Christ. Donc, oui, il parle de la loi, bon, en 20 et 21. Alors,
loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mm-hmm. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé afin que le péché, que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice.
Ok. Bon, quel est le but pédagogique de la loi?
Mais nous montrer le péché.
Ouais.
Montrer qu'il n'y a pas un bon, maman.
Maintenant, quand on regarde dans une société ou que ce soit. On met des lois pour que la société puisse vivre. Mm-hmm. S'il n'y a pas de loi, tout le monde fait ce qu'il veut n'importe comment, il n'y a pas de faute puisqu'il n'y a pas de loi. Mm-hmm. Mais je veux dire, on ne peut pas déceler, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, il n'y a rien puisque tout est autorisé, tout est permis. Mm-hmm. Mais ce n'est pas pour autant que la vie est
fonctionnelle.
Fonctionnelle, et donc c'est pour qu'elle soit fonctionnelle qu'on met des lois. Mais donc si on met des lois, tout ce qui était fait avant, ben maintenant, oui, de fait, ça, c'est pas bien. Donc, du coup, ça les multiplie dans ce sens-là, à mon avis.
C'est les lois créées par l'homme.
Quand il parle de la loi, c'est la loi de Moïse. Ok, c'est vraiment ça. Oui. Il y avait une part de ça quand même dans la loi aussi. Hein. Il y a des lois d'hygiène, des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est que quelque part, Dieu, il doit prendre une décision ici, de dire, ok, maintenant, ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Comme je l'ai dit jeudi, c'était pas fait pour leur tête, quoi. Ils sont pas en fait capables de vraiment gérer le bien et le mal, si bien que, si on pose la question à un individu, sa conscience va lui dire que ça c'est bien, et l'autre il va lui dire que ça c'est mal, alors que c'est qui a raison, quoi. Je veux dire, on voit qu'on n'est pas fait pour. On n'arrive pas de nous-mêmes à trouver un absolu en nous de ce quoi le bien, c'est quoi le mal. On est tellement influencé par notre culture, par toutes choses, donc pour moi, on n'est pas fait pour. Quoi. Donc, finalement, Dieu va donner une loi pour essayer de dire, moi, je vais vous montrer c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Et vous allez voir que votre tendance à la désobéissance va être de plus en plus évidente pour vous, à vos yeux. Vous allez comprendre, en fait, que vous êtes désobéissant en permanence. Vous allez avoir une loi appliquée, vous n'allez pas l'appliquer. Et qu'est-ce qui se passe avec Israël? C'est chaque fois... je donne la loi, je transgresse la loi, Dieu il châtie, il revient, il pardonne, et puis on recommence, et puis ok, c'est un moment d'exaltation, de joie, de gloire pour le Seigneur d'Israël, et puis finalement après on retombe encore et on se rend compte que c'est permanent, notre cœur n'est pas porté à l'obéissance, et ça va être ça un des passages en fait suite à Noé en fait, il va éteindre l'humanité. Ce qui va dire, ben en fait, j'ai beau recommencer, le problème est dans le cœur de l'humain. Quoi. Le problème, il est là. Et que ça ne sert à rien d'éteindre la race et d'en laisser un, ben, de toute façon, le problème est le même, parce que c'est quand même la même humanité, c'est toujours la même chose. Et donc, ça, pour résumer, ça veut dire, c'est ça, être en Adam. Quand on voit dans les Écritures, être en Adam, c'est être humain, quelque part, ok, c'est, on prend conscience, on partage tous la même chose, et j'aime bien comment Clément l'a dit, on fait partie de la bande des pécheurs, quoi. Et il n'y en a pas un parmi nous qui peut dire, moi je ne suis pas dans cette bande. Personne. Peu importe notre niveau de, d'être proche de Dieu ou loin de Dieu, peu importe, on est tous dans la même bande. Alors il y a des conséquences de ça. Et je vous propose de les lire rapidement dans le Confession de Westminster, que Clément doit connaître par cœur, 1646. Par ce péché, ils ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu. Ils sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les parties et facultés de leur corps et de leurs âmes. Comme ils étaient la souche du genre humain, la culpabilité de ce péché lui a été imputée, et la même mort dans le péché et leur nature corrompue ont été transmises à toute la postérité, descendant d'eux par génération normale. C'est mal traduit, ça. De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement déréglés, incapables et ennemis de tout bien, et totalement portés à tout mal, procèdent toutes les transgressions présentes. Tout péché, étant originel qu'actuel, étant transgression de la loi juste de Dieu et en opposition avec elle, recouvre de culpabilité le pécheur, et celui-ci est alors prisonnier de la colère de Dieu et de la malédiction de la loi, et soumis ainsi à la mort, avec toutes ses souffrances spirituelles, temporelles et éternelles. La Confession de foi de Westminster est vraiment toujours très bien dramatique là, sur son axe, mais elle a une partie très positive avec elle. Donc maintenant, on va voir dans cette deuxième partie la restauration, parce qu'on voit qu'on est tous sous la chute, on est tous en besoin de restauration quelque part. Il n'y a pas un d'entre nous qui peut dire « Non, moi, je n'ai pas besoin. » On en a tous besoin. Tous corrompus. Comment alors, selon vous? Essayez de mettre de côté vos convictions chrétiennes. Essayez d'imaginer, en tant qu'être humain, quelle possibilité vous verriez pour être restauré, réaccepté par Dieu.
Verset 23 de chapitre 6.
Oui. Ça, c'était conviction chrétienne, mais oui.
Il faut d'abord être triste.
Je vais le dire après, je le garde pour après. Là, je vais plutôt voir qu'est-ce que, de façon naturelle, on pourrait imaginer. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on pourrait imaginer, voilà, purger sa peine. On aurait envie de penser que...
Monter les escaliers à Rome.
Oui, comme Luther l'a fait, exact.
Ils ne sont même pas de grandeur égale.
Égale, ouais. Ce qui rend la chose plus pénible.
Oui.
Est-ce que, qu'est-ce que tu fais, Spiro, pour te faire pardonner les péchés que tu fais tous les jours? Qu'est-ce que...
Un péché, une bière.
Moi, je me tue.
Un pour un. Qu'est-ce que vous feriez?
Je sais pas, moi je vois que c'est désespéré, donc je me tue.
Tu te tues? Voilà, c'est dramatique. Jean?
Pour améliorer les conditions.
Oui, comment tu fais? Tu sais que tu es sous la condamnation de Dieu, sous la colère de Dieu, Ephésiens 2-3, tu peux rien faire. Tu n'auras pas droit à la part de Dieu. Je veux dire, qu'est-ce que tu aurais envie de faire en tant qu'être humain pour retrouver la paix avec Dieu?
Bah, dire pitié.
Se rendre compte de ce qu'on est.
Se rendre compte, hein, c'est intéressant ça. Prendre déjà conscience
et de s'améliorer. Essayer de s'améliorer.
Essayer de s'améliorer. Okay.
Quand on essaie de s'améliorer, il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on se dirige à un autre sens. On dit, va aller dans tel endroit.
Changer de direction.
Et il va arriver un moment où on va dévier et il faudra se rendre compte à ce moment-là qu'on dévie et reprendre de nouveau.
C'est
là.
Ça. Ok, c'est intéressant. D'autres choses?
Déjà, ne pas reproduire ces péchés. C'est déjà une première chose.
D'accord.
Moi, je me rebelle un peu contre Dieu quand même parce que. Enfin, je me rebelle. En ce sens que. Je dis, mais. Si c'était vraiment le cas, je suis en train de m'énerver en me disant mais je peux faire tout ce que j'ai envie, mais je n'y arrive pas. Je suis désolé, mais je n'y arrive pas. Je ne mérite pas d'être là, en fait. Tu veux que je passe?
Donc, tu réessaierais.
Non, ça ne sert à rien. Je sais que ça ne sert à rien. Je dis, mais donne-moi une solution, parce que moi, je ne sais pas quelque chose à faire. Donc,
Est-ce que vous voulez prendre juste 2 minutes et réfléchir aux religions que vous connaissez dans le monde? Quelles sont les solutions qu'ils proposent?
Ah, ils s'approchent de Dieu par leur méditation. Il y en a d'autres par leurs œuvres. Mais en tout cas, ils veulent aller par quelque chose qui vient d'eux, vers Dieu.
Je n'ai pas dit les autres religions, hein. Les religions. Hein. Ça peut être même chrétien. Hein. Je dis ok. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire? Tu disais?
Oui. Mais au temps de Luther, les jeunes allaient dans les monastères,
oui,
et des couvents,
oui,
parce qu'ils pensaient qu'alors ils deviendront plus saints, mais ils réalisaient que ce n'était pas le cas.
Oui. OK. Donc, un vrai désir de s'améliorer, quelque part.
Pénitent.
Est-ce que ce désir-là n'est pas dans toutes les religions ?
On enseigne, on essaie de guider les gens.
Ça me semble clair, hein, on l'a partout. Réincarnation, qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est chaque fois être meilleur.
On recommence, on recommence. On essaie de faire mieux à chaque fois, jusqu'à atteindre un top. OK ? OK ? D'autres choses, d'autres pensées par rapport à...
Mais si on prend l'islam, est-ce que c'est vraiment comme ça? Parce que eux, ils sont prêts aussi à dire, mais il faut tuer pour savoir, donc, pour avoir la grâce. Et encore, ils ne l'ont pas encore su.
Non, tout à fait. Donc là, il y a une incertitude totale qui apparaît.
Donc
c'est l'application stricte de la loi pour l'islam, stricte.
L'islam, c'est...
Et la grâce de Dieu finale.
Quand tu commets, ben voilà, le péché, ben tu sais que tu vas devoir purger. Et si
c'est
tu fais des bonnes actions, tu as des points, des
voilà, fenêtres. Purification.
Et puis, il y a une balance qui se fait. Et c'est puis, ben voilà, tu as fait autant de bonnes actions, autant de mauvaises actions. Ben voilà, en fonction de tes bonnes actions, ta peine, entre guillemets, hein, c'est pas le terme, ta peine est réduite à... Il y a un retour possible dans l'islam. Ta peine est réduite, si je ne me trompe pas, hein. Et tu vas purger pendant X jours, X mois, X années, et puis là, tu auras droit à revenir et à être bon. Et
voilà, donc j'allais poser la question, version islamique d'une chose catholique qui existe, qu'est-ce que le purgatoire ?
C'est un temps d'attente où tu as l'espoir de pouvoir changer par les prières des autres ou par un temps de purification.
Oui, donc il y a un temps que Dieu laisse de souffrance imposée pour que le cœur change et qu'on devienne meilleur. Dans toutes ces hypothèses-là, ça vient à chaque fois de l'être humain, la solution. Chaque fois.
Le système de récompense ne donne presque jamais la certitude d'avoir payé assez.
C'est ça.
Mais si, c'est
comment je peux être sûr ?
Mais maintenant, il y a aussi une chose, je pense à ça, la mythologie scandinave, par exemple, les Vikings, eux, à ce que je me rappelle, au niveau, donc, si la personne mourait au combat ou quoi, du moins au niveau du chef, En fait, la mort, c'était une joie, parce qu'on savait qu'il allait être retrouvé dans le paradis. Donc, mais il devait mourir au combat en honneur ou en intéressant. Donc, c'était le seul moyen. Mais pour eux, l'honneur, c'était défendre, je veux dire, son famille.
Le clan.
Pardon ?
Le clan.
Voilà, le clan. Donc,
c'est peut-être ça qui a fait leur puissance.
Donc, voilà, quoi... Pourtant, pour nous chrétiens, c'est quelque chose de mal de tuer une courante. Comme ça, pour essayer d'envahir.
Un dernier, hindouisme, système des castes. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Les castes, les intouchables, et puis après, on a les castes de marchands,
okay.
De militaires.
Si vous êtes dans une caste inférieure, c'est que dans votre vie précédente, vous n'étiez pas assez bien. Donc, aucun espoir de monter. Aucun. Juste en essayant de faire de son mieux pour, à la prochaine vie, être un peu plus haut, et un peu plus haut, et un peu mieux. Donc, toutes les religions ont le même principe. Toutes.
Les religions et les philosophies.
Oui, c'est s'améliorer. C'est le principe de s'améliorer humainement. Montrer qu'on est digne de faire quelque chose. Et quel est le problème de ça ? Quel est le problème de vouloir s'améliorer ? On pourrait vouloir, je veux dire.
C'est croire en nous.
Oui, donc en fait, le principe de récompense...
C'est s'auto-évaluer aussi.
Voilà, c'est s'auto-évaluer selon des règles qu'on s'est données, ou des règles religieuses, quand même, qui sont communes, ok. Mais à la fin, c'est faire finalement ce que Dieu fait, c'est-à-dire être encore autonome, finalement, si je suis sauvé, c'est je me suis sauvé.
C'est ça fait. Les gens qui disent...
Donc on est encore dans le piège du diable, d'une autre façon. On est cuit. Les pharisiens, pourquoi est-ce qu'ils n'aimaient pas Jésus-Christ ? Parce que Jésus-Christ, il allait vers les pécheurs, il les accueillait, sans rien d'autre chose. Et eux, ils disent, mais non, ça va pas. Nous, on passe notre vie à appliquer la loi à la lettre. et à respecter ça. Et Dieu nous a demandé de faire ça comme ça, et pour
c'est,
le faire.
C'est comme les enfants prodigues.
Ouais, c'est le fils prodigue, c'est pareil. Donc le fils prodigue, il vient, le père l'accueille, oh, c'est pas grave, c'est, bon, enfin, c'est pas grave. Je repaye encore un coup, hein, en gros. Tu m'as tout dilapidé, c'est pas grave, je te redonne encore. Et le frère aîné qui dit, non, c'est pas juste. Non, non, c'est pas juste. Moi, j'ai payé, moi. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est ça qu'on va voir.
Lire, louer, pratiquer l'altruisme.
On va voir, en fait, ce que c'est, en fait, finalement, la restauration. Parce que restauration, derrière, il faut imaginer que Dieu il voit les choses en grand. Nous, on les voit toujours en très localisé. Il voit souvent les choses beaucoup plus communautaires et moins individuelles. Et par exemple, on a parlé de la création, encore ce jeudi aussi. Mais ce qui se passe en Jésus-Christ, c'est une recréation. C'est-à-dire que Dieu recommence quelque chose d'une autre façon. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant. Parce que on a vu tout à l'heure, est-ce que c'est à cause d'Adam qu'on tombe, hein? Et la question que j'allais poser, c'est maintenant, est-ce que c'est grâce à Jésus-Christ qu'on est sauvé? Est-ce qu'on est de cette situation? De la même façon qu'Adam est chef de l'Alliance, de la création du jardin, Jésus-Christ est chef de la nouvelle alliance. Et donc, si Jésus-Christ vient et paye, entre guillemets, à notre place, la question du mérite n'est plus liée à nous. C'est-à-dire que tu n'es plus là à monnayer avec Dieu pour dire « je peux faire mieux, je vais arriver à faire mieux ». Moi, je me rappelle, avant ma conversion, c'était assez comique parce que j'avais pris conscience, je commençais à lire la Bible, j'avais lu Colossiens 3, je vais vous dépouiller de votre ancienne nature et fuir la corruption de la chair et débauche et ce genre de choses. Et j'étais là, je fais, ok, je vais le faire, je vais faire ça. Et au bout d'un moment, je disais, mais Dieu doit m'approuver, doit me féliciter quelque part, que je m'améliore et tout ça. Et je me sentais tellement supérieur à tout le monde parce que j'essayais de faire ça. Le problème, c'est que il se trouve que, pour une raison ou une autre, certaines délivrances ne viennent pas et on reste dans le même péché 25 fois et qu'on se dit, mais pourquoi, mais ça ne vient pas parce que, je dis, ce qui alimente le péché, c'est le problème du départ, c'est on ne croit pas que Dieu est capable de faire ça et on pense que nous-mêmes, on est capable de se délivrer de ça. Et Dieu n'intervient pas tant que c'est ça. Tant qu'on n'a pas abandonné nos efforts de nous sauver nous-mêmes, de nous montrer à Dieu qu'on est capable de faire quelque chose, ça n'intervient pas, je veux dire, quelque part, pour nous donner un coup de pouce. Parce que sinon, s'il intervenait, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, voilà, maintenant, je me suis délivré de ce péché, je suis tellement fort, c'est fantastique. J'ai jeûné 28 jours d'affilée, je me suis levé tous les jours à 5 heures du matin pour lire la Bible. Forcément que Dieu il doit m'aimer, c'est une évidence.
C'est comme la parabole avec le pharisien et le...
Oui, voilà, merci Seigneur que je ne suis pas comme ce pécheur, hein. C'est ça, exactement.
En fait, tu deviens prétentieux.
Voilà, donc en fait, on ne comprend pas. Donc, ça arrive que parfois, on comprend tout le message des Écritures, on comprend Jésus-Christ, mais on a juste changé de langage. On a juste incorporé un langage chrétien dans la chose, mais on se sert de Jésus-Christ comme un moyen de dire, moi, maintenant, je mérite d'être sauvé, parce que moi, je crois en Jésus-Christ. Ça devient un moyen, ok? Alors que l'idée de ça, c'est de dire, ça n'a rien à voir avec toi. Je suis venu sur cette terre pour que justement ça n'ait rien à voir avec toi, pour que je me dépouille de ma nature divine et que je prenne la tienne pour mourir à ta place. Moi, tu peux rien dire par rapport à toi. Et là, tu peux vraiment t'en sortir. Si ça ne dépend plus de toi, là, tu peux vraiment faire le bien. Tu
peux faire. Ça peut pas être.
Mais c'est ça que je vais essayer de voir. Je dis maintenant, comment ça marche? Comment est-ce que le pont entre l'ancien Adam et le nouvel Adam, c'est-à-dire, peut être fait. Le langage des Écritures, si vous regardez bien les lettres, Paul, il va dire toujours « en Christ, je vous communique la paix, en Christ, soyez tous réconciliés, en Christ ». Il y a ce vocabulaire du lieu. En fait. C'est pas juste par la philosophie de l'enseignement de Jésus-Christ, mettez en pratique ce mode de philosophie pour que ça marche. Il dit « soyez en Christ ». Vous étiez en Adam, soyez en Christ. Donc il y a un changement de lieu ici. Et c'est ce que, en fait, le Nouveau Testament appelle nouvelle naissance. Et c'est pas pour rien que Jésus, en fait, utilise un vocabulaire qui est lié à la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'on est né une première fois en Adam. Humain, ta maman, elle a accouché de toi. Et puis tu es là, dans ton humanité. Mais Jésus-Christ, il dit, pour être en moi, il faut naître de nouveau. Et là, on est là, on fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, se reconnaître en Adam. Si on se dit, ben non, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais obéi à Dieu, quoi. Ok. Ça peut poser un problème, non, quand même? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous faites tous les jours tout bien? Ne serait-ce que cette question répond là. Hein. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on n'a pas envie de diriger sa vie soi-même plutôt que d'écouter ce que Dieu a dit? Quand on voit certaines choses dans la parole qui nous heurtent quelque part ou vont contre notre propre désir, on fait ça. Donc c'est reconnaître ses penchants de vouloir être indépendant de Dieu. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est se lier à Jésus-Christ. Comment? Par la foi au chef de la Nouvelle Alliance. Autant on est lié par naissance au chef de la Première Alliance, ça c'est votre donnée initiale, vous voyez en vous le péché. Si tu reconnais le péché qui est en toi, et que tu te lies à Jésus-Christ comme solution du péché, contre le péché, mort pour les péchés, ça veut dire que c'est lui qui a payé la transgression de la colère de Dieu. Alors tu es lié, alors tu es né de nouveau. Donc un petit parallèle comme ça. Dans Genèse, on parle de la création. On voit Adam, personnage qui scelle l'alliance avec Dieu. On voit une désobéissance, le péché. Quelque part, c'est la même chose, ok, je l'ai séparé, mais c'est la même chose. Et ultimement, la mort. Donc, pour résumer, c'est à cause de la faute d'Adam qu'on paye pour nos propres fautes. Okay, c'est ce qu'on a vu. La condamnation est venue dans le monde à cause du péché d'Adam, mais on paye pour nos propres fautes. Et avec Jésus-Christ, il y a une recréation. Naissance de tous, nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Jésus-Christ, qui... Et c'est là que j'aimerais vous attirer sur le parallèle qui est important. Qui a désobéi dans la première alliance?
Adam, et qui obéit?
Qui obéit dans la nouvelle alliance? Okay. Donc, et ça c'est crucial, parce que qu'est-ce qui est différent de toutes les religions en fait ici?
Quelqu'un d'autre qui fait.
Quelle est la grosse différence entre toutes les religions? Okay. Toutes les religions, qu'est-ce qu'elles font? Toutes les religions, elles veulent essayer de résoudre ce problème. Et comment elles font? Elles disent, moi, je dois obéir à quelque chose pour que Dieu m'accepte. Okay? Le message de l'évangile, c'est Jésus-Christ a vécu la vie qu'on n'a pas vécue, dans l'obéissance, jusqu'à la mort, pour nous donner la vie. Et ça, c'est une puissance de libération, en fait. Ça veut dire que Dieu nous accueille par Jésus-Christ. Il ne nous accueille pas par notre obéissance en respectant la loi, parce qu'il sait très bien que de notre nature, on sera incapable de respecter la loi sans s'enorgueillir. Donc en fait, on est lié. Si on est toujours avec la loi, le fait que notre nature soit là et cette incompatibilité d'avoir pris cet arbre de connaissance du bien et du mal, on n'est pas capable, en fait. On n'est pas capable de faire le bien sans s'enorgueillir. C'est ce que Paul dira hein, dans les lettres. Il dit, aucun n'est juste, pas même un seul. Et même celui qui fait le bien le fait toujours avec un cœur corrompu, quelque part. Donc ça, c'est important, et c'est ce qu'on voit, en fait, très bien illustré dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Alex, est-ce que tu veux le lire?
Oui. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu.
Voilà. Ça résume très très fort en fait, ce pont en fait, que Paul ici fait aux Corinthiens. Et c'est ça en fait qu'il faut vraiment saisir. Pourquoi est-ce qu'on ne tient dans l'Église qu'à deux sacrements, si on veut vraiment les appeler comme ça, et que c'est le baptême et la Sainte-Cène, C'est parce qu'il y a juste deux choses qui peuvent, entre guillemets, nous rappeler ça. Le baptême, c'est dire publiquement, je m'identifie à Adam. Et maintenant, je veux m'identifier à Jésus-Christ dans sa mort. Donc on est immergé dans l'eau, enseveli comme Christ, et on ressort. Donc c'est reconnaître notre nature en Adam, reconnaître qu'on veut se lier à Jésus-Christ, être immergé dans sa mort pour être vivant. C'est ça le baptême. Et la Sainte Cène, ce qu'on va prendre maintenant, c'est juste le rappel pour les baptisés justement, ou pour ceux qui sont en chemin mais qui ont accepté que cette identification avec Adam et avec Jésus-Christ, d'être pécheur, reconnaître être pécheur, d'être condamné quelque part par Dieu pour la nature du péché, mais surtout dire j'ai une espérance que le Christ, en fait, il a, par les éléments du pain et du vin, il a dit je vous laisse ces éléments et un jour j'en reboirai avec vous dans le ciel. Et là il crée un lien avec l'avenir quelque part. Il est en train de dire ça s'arrête pas juste là sur la terre. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est là que je reviens juste sur ce texte là ils disent ce qui m'intéresse, c'est la recréation. Il y a une terre ici qui s'est passé certaines choses, mais ça va passer, au bout d'un moment, tout va recommencer. Et ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est que chacun d'entre nous puisse avoir en lui-même deux personnes. Il y a sa nature humaine qui est là, on peut rien faire. La confession de foi de Westminster dit, on est collé avec elle jusqu'à mourir. Mais ce qu'il veut surtout, c'est qu'il y ait un être à sauver plus tard. Il y a un être qui soit présent, un être nouveau, qui puisse ressusciter un jour, pour se réjouir avec lui pour l'éternité. Et c'est pour ça que c'est important de prendre une décision pour Jésus-Christ maintenant, et pas attendre un éventuel purgatoire qui n'existera pas. C'est nécessaire de prendre une décision pour Jésus-Christ. Est-ce que je veux être avec Jésus-Christ pour l'éternité? Est-ce que je crois qu'il me libère de tout désir de performance à montrer devant Dieu au jour du jugement, et que je dis non, c'est... Je veux te plaire. Quand on obéit à Dieu, c'est je veux te plaire. Je ne veux pas mériter quelque chose d'être sauvé. Je veux échapper à cette mentalité. C'est ça, en fait. Le désir d'être recréé, parfait, comme il est parfait. Donc Jésus-Christ est le nouvel Adam. Et nous sommes appelés à mettre notre confiance en lui pour le pardon de nos péchés.